Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Le Venezuela est confronté à la plus grave crise de son histoire. Une économie au ralenti, une monnaie naufragée, des pénuries. Avec deux présidents, le député de centre droit Juan Guaido, reconnu par une cinquantaine de pays dont les États-Unis, et le chef de l'État, le socialiste Nicolas Maduro, soutenu par la Chine. Et la Russie, c'est ce dernier qui gouverne actuellement le Venezuela depuis sa réélection en mai 2018 au cours d'un scrutin qui n'a été reconnu ni par l'Union européenne ni par les États-Unis. Bonjour Jean-Jacques Kourlianski, vous êtes directeur de l'Observatoire d'Amérique latine de la Fondation Jean Jaurès, chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Amérique latine et de l'Espagne. La semaine dernière a été particulièrement chargée sur le plan de l'actualité au Venezuela. Peut-être nous résumer en quelques mots ce qui s'est déroulé la semaine dernière.
Oui, je vais essayer parce qu'il y a beaucoup de confusion, y compris dans l'information qui a été communiquée ou qui nous est arrivée. Beaucoup de rumeurs, beaucoup également de fausses nouvelles qui font partie de la façon d'essayer de gérer la politique au Venezuela. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le président autoproclamé ou intérimaire, selon les uns et ou selon les autres, a tenté un nouveau coup de poker, c'est-à-dire de faire croire qu'il y avait des divisions au sein des forces armées. Il s'est présenté devant une base aérienne dans les quartiers plutôt de classe moyenne élevée de Caracas, entouré d'un certain nombre de soldats armés, laissant croire que cette base militaire avait basculé. Et donc il a annoncé, c'est la fin, on va provoquer un changement que vous attendez tous. À ses côtés, quelques temps plus tard, on a constaté la présence de Leopoldo López, donc son chef de parti, du parti donc le plus radical de l'opposition Volonté Populaire, qui était assigné à résidence à son domicile depuis un an. Donc, ce qui semblait accréditer le fait qu'il y avait effectivement un changement en cours. On s'est très rapidement aperçu que ça n'était pas le cas, en dépit là d'une nouvelle fausse nouvelle, mais venue des États-Unis, annonçant que le président Nicolas Maduro, donc l'autre président, qui détient le contrôle du territoire, serait à l'aéroport en partance pour Cuba, ce qui s'est avéré finalement inexact. À la suite de ces différents coups de médiatiques et de informations et de contre-informations, finalement les choses sont revenues à la case départ, c'est-à-dire le président Maduro garde le contrôle des forces armées, de l'administration publique et donc du territoire. Il est donc le président qui a effectivement l'autorité sur son pays. Et le président Guaido, lui, garde le soutien des classes moyennes vénézuéliennes, donc un noyau dur de 45% d'électeurs, selon toutes les élections qui ont été organisées dans le passé, et avec le soutien d'une cinquantaine de pays sur les 200 qui composent les Nations Unies.
Oui, mais ce ne sont pas ces pays qui, bien entendu, vont faire l'élection Jean-Jacques Kourlianski. Comment peut-on, du coup, imaginer l'évolution au Venezuela? Tout d'abord, la guerre civile est-elle un risque aujourd'hui?
Alors, c'est un risque qui est réel, mais que personne ne veut assumer, parce qu'effectivement, face à ces 45% qui sont des opposants historiques à Hugo Chavez, puis à Nicolas Maduro, le bloc donc de l'électorat qui soutenait Hugo Chavez et Nicolas Maduro s'est fracturé. C'est fracturé pour les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure. Le Venezuela traverse une énorme crise économique et sociale qui a d'ailleurs poussé 2 à 3 millions de Vénézuéliens à quitter leur pays. Ça pourrait d'ailleurs s'aggraver. D'après l'Office international des migrations, donc qui dépend des Nations Unies, il pourrait y avoir 2 millions de migrants supplémentaires avant la fin de l'année. Donc il y a effectivement, face à ces 45%, un bloc qui est assez désagrégé du côté de Nicolas Maduro, mais malgré tout, on considère qu'il a 20% de fidèles et que donc il pourrait y avoir effectivement un affrontement civil, d'autant plus grave que les forces armées restent fidèles au pouvoir. Alors on est revenu à la case départ, mais malgré tout, une différence, c'est que l'opinion publique vénézuélienne, comme l'opinion publique internationale, s'est rendu compte que Juan Guaido était un joueur de poker, qu'il avançait ses cartes, mais qui étaient des cartes de petite valeur. Et lorsqu'il a appelé pendant ce week-end La population a manifesté devant les casernes. Le retour qu'il attendait, massif, ne s'est pas produit. Autre élément qui joue en sa défaveur, Leopoldo López a effectivement été exfiltré de sa maison, mais très rapidement, on a constaté qu'il ne croyait pas à ce qui était en train de se passer, qu'il a demandé asile à l'ambassade du Chili et que finalement il a changé d'ambassade, il est aujourd'hui à l'ambassade d'Espagne.
Bon, autrement dit, si on essaye de comprendre ce qui se trame là-bas, si c'est un coup d'État, celui que souhaite fomenter Juan Guaido, c'est un coup d'État faible qui donc, du coup, ne peut pas fonctionner, en tout cas...
C'est un coup de poker, comme son autoproclamation bon, président de la République.
Ça a bluffé, c'est quelque chose de traditionnel chez les politiques.
Peut-être, mais là, c'est quand même assez lourd de conséquences. C'est dans la mesure où il y a des vies qui sont en jeu, il y a le destin d'un pays. Oui, il ne s'agit pas de discours dans une assemblée nationale.
Bien entendu. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que aujourd'hui, après ce coup de bluff, on voit, dites-vous, Jean-Jacques Kurlianski, qu'il n'a pas véritablement les moyens, Juan Guaido, de sa politique. Du coup, comment peut-on imaginer une évolution des forces en présence?
Alors tout le monde pense et propose finalement, ou disons les éléments les plus modérés dans les deux camps considèrent que la seule solution c'est de s'asseoir autour d'une table et de négocier un compromis. Les éléments les plus radicalisés des deux camps y sont opposés. Cela dit, la situation évolue. L'échec de Juan Guaido l'a affaibli, mais de notre côté, Nicolas Maduro est en train de subir de plein fouet l'effet des sanctions américaines qui compliquent la vente du pétrole vénézuélien, et le pétrole est la seule chose que le Venezuela est en mesure de proposer sur les marchés internationaux. Donc, d'un côté comme de l'autre, on peut considérer que ce double affaiblissement pourrait, je reste au conditionnel, faciliter un dialogue, disons.
Merci pour cette tentative d'éclaircissement, Jean-Jacques Kurlianski. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire d'Amérique latine de la Fondation Jean Jaurès et chercheur à l'IRIS.